La Côte d'Ivoire est toujours sans président, Laurent Gbagbo n'étant toujours pas décidé à laisser le pouvoir à son rival Alassane Ouattara. En attendant un règlement de la question, quelques 20 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, cherchent refuge au Libéria, ce qui n'ira pas sans gros risques humanitaires. Le Haut Commissariat pour les réfugiés est inquiet de cet important mouvement de population. En France, journée en faveur des deux journalistes otages depuis un an en Afghanistan. Pour l'ex-otage Florence Aubenas, les autorités gesticulent plutôt que de travailler sérieusement à la libération des deux hommes. Les nuits lausannoises de fin de semaine sont connues, très courues et parfois très mouvementées. Cette année, le nouvel an tombe sur le week-end. Mais la police ne pense pas renforcer ses effectifs et n'attend pas d'effervescence particulière. Stratus sur le plateau dès le matin demain avec une limite de la couche supérieure à environ 900 mètres. Ailleurs, du soleil, température en pleine entre 0 et moins 2 degrés. Bulletin complet de Météo Suisse en fin de journal. En Côte d'Ivoire, c'est toujours l'impasse politique. Après l'échec d'une première mission de médiation, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a annoncé qu'elle enverrait une nouvelle délégation à Abidjan le 3 janvier pour tenter de convaincre le président sortant Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir. Près de 20 000 Ivoiriens ont fui leur pays pour échapper aux violences post-électorales. Ces personnes cherchent refuge au Libéria, voisin. Fatimata Lejeune-Kaba, porte-parole du Haut Commissariat pour les réfugiés pour l'Afrique de l'Ouest.
Les habitants viennent de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce sont à la fois des supporters d'Alassane Ouattara et aussi de Laurent Gbagbo. Ils sont plutôt des femmes et des enfants, étant donné que pour le moment, les maris, les pères restent derrière pour voir comment la situation politique va évoluer. Et nous sommes en négociation avec le gouvernement libérien pour pouvoir les placer dans un camp plutôt que de les laisser chez l'habitant.
Est-ce que vous-même craignez déjà une éventuelle crise humanitaire ?
En effet, on craint une crise humanitaire parce que déjà, les Libériens sortent de 14 années de guerre civile. Les ressources sont vraiment très limitées et le nombre de personnes qui arrivent met encore plus de pression sur le peu de ressources existantes. Donc, nous avons besoin d'intervenir rapidement, par exemple dans le domaine de la santé, pour éviter qu'il y ait des cas de maladies, par exemple, graves. On a déjà enregistré des morts parmi les réfugiés arrivés du fait qu'il n'y a pas suffisamment de soins disponibles dans les zones où ils sont.
Fatimata Lejeune-Kaba était l'invitée de Forum sur la première. Le département fédéral des affaires étrangères a annoncé cet après-midi avoir reconnu l'élection d'Alassane Ouattara à la présidence ivoirienne. La Confédération exhorte en outre les partis en présence à trouver une solution pacifique à la crise politique en Côte d'Ivoire. C'est la première fois que la Suisse prend officiellement parti dans le conflit post-électoral ivoirien. Deux manifestations simultanées menées par des partisans de M. Ouattara ont eu lieu ce matin à l'ambassade de Côte d'Ivoire, à Berne et à la mission permanente de ce pays auprès de l'ONU à Genève. Elles avaient pour but de déloger les ambassadeurs actuels. À Berne, on indique toutefois n'avoir reçu aucune demande d'agrément du gouvernement Ouattara pour un nouvel ambassadeur. En France, la journée a été marquée par des mobilisations dans plusieurs villes du pays en faveur de la libération des deux journalistes détenus depuis un an, exactement en Afghanistan. Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier ont été enlevés alors qu'ils étaient en reportage pour la chaîne de télévision France 3. À Paris, les familles des otages, leurs proches, leurs collègues et des confrères se sont rassemblés, place de l'Hôtel de Ville. Le ton était au ras-le-bol, ainsi qu'à la perte de confiance dans les autorités. Pour Florence Aubenas, elle-même ex-otage et marraine du comité de soutien aux deux journalistes otages, la vidéo qui les montre en apparente bonne santé, c'est de la bonne communication, mais cela ne fait pas avancer le dossier, elle l'a dit à Mehmet Gultas.
C'est du discours, c'est de la communication. Ça n'a aucun sens. Les gens, ils ne veulent pas être rassurés. Ils veulent être sûrs que le gouvernement est pleinement impliqué dans cette affaire. Cette gestion politique que je dissocie tout à fait de la gestion sur le terrain, qui sont les gens impliqués, qui risquent leur vie pour les libérer, qui négocient aujourd'hui, etc. Ça, c'est une chose. L'autre chose qui est la gestion politique, qui est là, cette berceuse qu'on nous joue depuis un an, c'est ça qui est minant. C'est-à-dire que, ils vont être libérés avant l'été. L'été passe, ils ne sont pas libérés. Et ben, avant Noël, mais enfin, je sais pas, au bout d'un moment, c'est exaspérant. On voit les parents passer par des hauts débats. Ils font état de coups de fil qui n'arrêtent pas. Ah, ça y est, alors vous partez à l'aéroport. Ah, ben non, c'est pas ça. Enfin, c'est inouï quand même de jouer avec les nerfs des gens comme ça.
L'ancien dirigeant communiste polonais Wojciech Jaruzelski a été hospitalisé aujourd'hui, ont rapporté les médias locaux. Selon la chaîne de télévision TVN24, le général Jaruzelski, âgé de 87 ans, a été admis au service cardiologie de l'hôpital du ministère polonais de l'Intérieur. L'agence de presse polonaise PAP, qui ne cite pas ses sources, a indiqué qu'il souffrait d'une pneumonie. Jaruzelski avait imposé la loi martiale en Pologne le 13 décembre 1981 pour réprimer la montée du mouvement Solidarité. Celui-ci devait finalement faire tomber le régime communiste en place en 1989. Lausanne a la réputation d'être la capitale incontestée de la nuit en Suisse romande. On vient d'un peu partout pour y faire la fête. Les soirées sont donc généralement animées. Corollaire, des incidents plus ou moins graves se produisent quasiment chaque fin de semaine à Lausanne. Cette fois, le week-end coïncide avec le passage à l'an nouveau, occasion supplémentaire de fêter. Michel Lehmann a demandé à Hervé Kaufmann, l'un des porte-parole de la police lausannoise, si un dispositif un peu plus étoffé que d'habitude avait été mis sur pied pour la nuit du réveillon.
Non, on ne peut pas le dire. Ça correspond à un gros week-end ordinaire, on pourrait dire, légèrement renforcé. Il y a notamment le poste de quartier de la gare qui est ouvert, ce qui n'est pas habituel. Mais sinon, c'est un très très léger renfort des effectifs de certaines entités du corps de police. Mais sinon, rien de plus.
Expérience faite, les nuits de réveillon ne sont pas plus animées que le reste de l'année.
En général, non, même si on sait qu'il y a 2-3 ans, ça a été un tout petit peu plus animé à l'occasion d'une grande fête qui est organisée à Beaulieu. Mais sinon, en général, c'est pas sensiblement plus animé qu'un samedi soir, on va dire ordinaire.
Et d'après le programme des festivités de cette année, il n'y a pas d'événement spécial attendu à Lausanne, la fameuse nuit?
Non, rien de particulier. Il y a une grande fête qui a lieu sur Montreux, mais pas à Lausanne.
Aux Franches-Montagnes, dans le canton du Jura, une poignée de citoyens de la commune de Lajoux lance une pétition afin d'avoir des informations officielles sur un projet d'implantation d'éoliennes. Au printemps, une publicité laissait entendre que Sol et Suisse étaient heureuses de travailler étroitement avec Lajoux et Rebévelier dans le Jura-Bernois pour la réalisation d'un parc d'environ 17 éoliennes. Pourtant, aucun véritable projet n'a été présenté à la population du village. Par leur intervention, les auteurs de la pétition demandent aussi un moratoire. Le Genève Servette Hockey Club risque gros suite au report de son match du 5 décembre dernier contre Berne. Le gardien genevois Tobias Stéphane aurait été vu le soir même parmi les spectateurs du match de Ligue Nationale B entre Langenthal et La Chaux-de-Fonds. Or, Tobias Stéphane faisait partie des joueurs annoncés malades ce jour-là. Le juge unique de la Ligue Nationale a ouvert une enquête sur la base de plusieurs témoignages. Genève Servette pourrait se voir infliger une lourde amende. Simon Hamann a pris la 4e place à Oberstdorf lors de la première étape de la tournée des 4 tremplins en saut à ski. Le concours a été dominé par l'Autrichien Thomas Morgenstern. Les spécialistes notent que dans l'optique de la victoire finale, Simon Hamann se trouve déjà en difficulté. Il compte 30 points de retard sur Thomas Morgenstern en super forme, qui a conquis sa 5e victoire de la saison. Michael Ballhofer a remporté la descente Coupe du Monde de Bormio en Italie, la dernière épreuve masculine de ski alpin de l'année. L'Autrichien s'est imposé devant le Valaisan Silvan Zurbriggen et l'Italien Christoph Innerhofer. Zurbriggen prend la tête du classement général de la Coupe du Monde. Joël Robert, le skieur suisse peut-il rêver de remporter cette Coupe du Monde?
En début de saison, cette question était incongrue. Zurbriggen, bon technicien, ne possédait pas assez de repères dans les disciplines de vitesse. Mais en 3 descentes, le Haut-Valaisan a prouvé qu'il se profilait comme un prétendant à la victoire finale. 4e à l'Écluse, vainqueur à Valgardena, 2e hier à Bormio. Il engrange des points importants, capitaux peut-être, dans la lutte sportive qu'il va mener à Svindal, Jonka et Reich. Le mois de janvier sera sans doute décisif, très copieux pour Zurbriggen, avec les rendez-vous de Zagreb, Adelboden, Wengen, Kitzbühel, Schladming, puis Chamonix, une dizaine de course en 25 jours avant les mondiaux de Garmisch. Zurbriggen va connaître aussi la pression inhérente aux favoris, une situation qu'il n'a pas encore connue. Cette gestion-là s'avérera aussi très importante, comme le seront également les propensions de Zurbriggen à éviter les sorties de pistes extrasportives et les scandales qui s'en suivent, comme à Altabadia il y a quelques années et plus récemment à l'Écluse en début d'hiver.
Côté Suisse, aujourd'hui à Bormio, Patrick Küng s'est classé 4e et Didier Kuch 21e. L'Autrichienne Marlies Schild a remporté le slalom Coupe du Monde de Semmering en Suède. Elle a précédé deux Allemandes, Maria Rich et Christina Geigen. Aucune Suissesse ne s'est qualifiée pour la deuxième manche. La grippe commence à sévir en Suisse. Pour la première fois depuis le début de l'hiver, le seuil épidémique a été dépassé, selon le site en ligne de l'Office fédéral de la santé publique. Le virus touche surtout les jeunes enfants. Il n'a pas encore essaimé dans les cantons du nord du pays. Le seuil épidémique de 72 consultations pour 100 000 habitants a été légèrement largement dépassé. Des nouvelles des indices boursiers, le Dow Jones a fini en hausse de 0,18% à 11 575 points. Le Nasdaq a cédé 0,16% à 2 662 points. Le Swiss Market Index a terminé la séance à 6 566 points, une baisse de 2,41 points ou 0,04%. Stéphanie Collère.
La journée de demain rappellera celle qui se termine. Selon Météo Suisse, le stratus sera à nouveau bien présent sur le plateau dès le matin, avec une limite de la couche supérieure à environ 900 mètres. Il aura tendance à se maintenir tout au long de la journée. Au-dessus de cette limite, ainsi que dans les autres régions, le temps sera généralement ensoleillé, même si on pourra voir quelques passages de nuages élevés. Un vent de secteur nord-ouest soufflera en montagne, mais sera généralement faible. La limite inférieure des températures se situera entre 0 et moins 2 degrés. Elle sera un peu plus basse en vallée ainsi que dans les régions dont le ciel sera clair, vers moins 5. Les températures restent douces en altitude puisqu'il fera environ 0 degré à 2000 mètres et jusqu'à 3 degrés vers 1500. Vendredi, la situation ne change pas beaucoup. Le stratus recouvrira encore le plateau. Sa limite supérieure pourra remonter jusqu'à 1200 mètres et le reste du pays devrait être bien ensoleillé.
C'est beau comme ça, une chute de neige sur un toit. Bon, on passe au mot du soir ce soir. C'est abéqueuse. Abéqueuse, ça s'écrit de deux manières. C'est un nom féminin, un peu argotique dans un sens, tout à fait correct dans un autre. Alors abéqueuse, ça s'écrit A-B-E-C-Q-U-E-U-S-E ou A-B-E, accent aigu, Q-U-E-U-S-E. Vous voyez, vous pouvez mettre avec accent et sans C ou sans accent et avec un C. Voilà, maintenant que vous savez ça, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que abéqueuse ? Alors abéqueuse,